Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie.
COVID-19.
Un mot maintenant sur... on retourne sur l'économie durant la COVID. Là, on sait qu'il a mis sur pause de plusieurs industries. On a beaucoup parlé du transport en commun dans les villes qui traversent une crise. Moi, qui ai recommencé à prendre le métro de Montréal encore aujourd'hui, je vais partir à l'heure de pointe et il y a à peu près personne. Donc, ça a amené de grands défis pour les réseaux de transport en commun, de sorte que les gouvernements essaient d'aider. Mais dans les autobus, les transports interrégionaux, je suis moi-même un utilisateur assez régulier faisant Montréal-Québec à tout bout de champ, eux traversent une crise et demandent maintenant de l'aide du gouvernement pour leur relance. C'est le cas des six principaux transporteurs interrégionaux au Québec, qui sont de la Fédération des transporteurs par autobus, dont Orléans Express Intercar, disons les plus connus. Pour en parler, on rejoint président directeur général de Keolis Canada, Pierre-Paul Farran. Monsieur Farran, bonjour.
Bonjour, Monsieur Desureaux.
Donc votre industrie, à vous, elle est stoppée complètement depuis quoi, la mi-mars?
29 mars, nous, chez Keolis, on a mis fin aux activités d'Orléans Express. C'est à peu près la même date pour la plupart des transporteurs.
Et avez-vous, donc pour l'instant, là, vous en êtes où dans les informations de déconfinement? On a l'impression que le Québec est déconfiné presque au complet. Qu'en est-il de votre industrie?
On a présenté un plan de relance au ministère des Transports au mois de mai, en leur brossant un tableau de la situation, puis en leur expliquant dans quelle situation financière on était. On leur demandait une aide pour la relance, un peu au même titre que le transport en commun. Parce que finalement, nous, comme les sociétés publiques, si on transporte des gens, c'est juste qu'on le fait sur de plus grandes distances. Et il y a des défis particuliers, surtout sur certaines routes régionales. Donc, c'est pas un nouveau problème ou c'est pas un nouveau sujet de discussion avec le ministère des Transports. C'est juste que là, la pandémie fait simplement venir à empirer la situation. Donc, on leur dit, on est obligé d'arrêter à cause des mesures sanitaires, le voyagement entre les régions qui avait été restreint. Maintenant que ça réouvre, on a besoin de se refaire confirmer quel genre de mesures qu'ils veulent qu'on respecte. Et on sait déjà que ces mesures-là empêchent la rentabilisation de l'activité.
Donc, ça, on pense, M. Farran, comme automatiquement à dire, OK, ben, si on a la moitié des bancs, tout le monde est près de la fenêtre, on respecte la distanciation sociale, mais est-ce que pour vous, un voyage comme ça peut être rentable?
Non, ce ne l'est pas, justement. Donc, une des choses qu'on leur demande, c'est de pouvoir, le temps que les mesures sanitaires restent en place, c'est ce qu'on leur demande, c'est, dans le fond, de compenser la perte pour éviter qu'on continue à accumuler des pertes financières, qu'on nous compense en attendant qu'on puisse reprendre l'activité, permettre aux gens qui ont besoin de voyager entre les régions de reprendre leur voyage, mais sans nécessairement mettre en danger la pérennité des entreprises. Parce que si on ne reprend pas, il y a des compagnies qui ne retourneront pas sur la route. Et si on retourne à perte, ben, vous et moi, il n'y a pas une entreprise privée qui va repartir ses activités si au bout de la ligne, c'est juste pour accumuler les pertes.
Parce qu'en plus, on veut que les Québécois voyagent à l'intérieur du Québec. On donne des rabais pour des attractions. On voit aujourd'hui là les passes de saison pour la CEPAC dont les gens s'arrachent. Là, on parle de 80 000 personnes en file d'attente. Donc les Québécois ont le goût de sortir, mais c'est pas toutes les familles qui ont un véhicule nécessairement. Et pour beaucoup qui veulent sortir un peu de leur coin, ça passe par vos services. Là.
Ah, absolument. Donc, il y a les gens qui vont vouloir voyager par plaisir. Il y a les gens qui ont besoin de voyager. Par exemple, pour les gens qui ont des rendez-vous médicaux dans les grands centres et qui veulent pas ou qui ne peuvent pas se déplacer en véhicule. Il y en a qui se déplacent, qui utilisent les services interurbains pour des raisons d'affaires, autant pour se déplacer eux que pour déplacer des colis, hein, parce que en soute, il y a une grande industrie du colis qui vient avec les services interurbains. Donc, nous, quand on a présenté le plan de relance au mois de mai, on visait le début de l'été parce qu'on se disait, on entendait ce qui se passait, on entendait les décisions gouvernementales, les orientations qui se prenaient, puis on se disait, hop, il semble y avoir une réouverture qui s'en vient, puis je pense qu'on devrait c'est pas tellement profiter de l'occasion mais que de relancer notre activité en même temps pour soutenir, si on veut, la réouverture, la relance du tourisme, l'idée qu'il y avait de permettre aux Québécois de visiter leur grande province.
Pour moi, qui prend quand même l'autobus, je le disais assez souvent, là, c'est le cas pour Orléans Express, je remarque souvent les véhicules sont très neufs. On a l'impression que c'est des véhicules qui sont pas donnés. Gardez les parcs d'autobus comme ça, stationnés, ça doit quand même représenter des coûts importants. Est-ce que est-ce que certains ne vont pas survivre et pas passer à travers la crise s'il n'y a pas d'aide du gouvernement?
S'il n'y a pas d'aide du gouvernement, je suis convaincu qu'il y en a qui ne reprendront pas leurs activités. Financièrement parlant, là, ça va être totalement impossible.
Parce que pour vous, garder des véhicules, comme je suppose qu'il y en a que ça doit être payer avec un crédit, ou est-ce que ça représente vraiment une grosse facture, ou stationner, c'est pas si pire?
En fait, un coach bien équipé, ça tourne autour, je vous dirais, un chiffre, 600-650 000 $. Donc, évidemment, toutes nos flottes, ils sont financées, hein, un peu comme la plupart des Québécois avec leur automobile. Donc, c'est sûr, accident coût, s'ils n'avaient pas de revenus pour compenser, ben c'est comme toute personne qui, un jour, manque d'argent pour pouvoir rembourser son prêt à la banque. À un moment donné, il va avoir des rappels. On a beau dire que tout le monde prend... cherche à collaborer, puis à étendre les paiements, puis il arrive un moment donné qu'il faut que vous remboursiez vos dettes. Là, le bus, c'en est un gros. Les infrastructures, c'en est un autre. Hein. La plupart de nous autres, on a des ateliers mécaniques. Nous, dans notre cas, on a quand même deux gares à entretenir, des gares qu'il faut mettre au diapason pour pouvoir donner des services aux passagers. C'est des investissements importants. Donc, c'est sûr, il faut que les revenus reviennent, là, je vous dirais, là, très rapidement.
Avez-vous l'impression, en terminant, les gouvernements sont très rapides à aider, le transport en commun, le service par autobus dans les villes, métro, projet de tramway, tout ça. Vous faites le même type de service, c'est simplement sur de plus longues distances. Trouvez-vous que vous embarquez pas dans le même bandwagon que d'autres services similaires, mais au niveau urbain?
Ben, en fait, ça fait longtemps qu'on dit... Le transport interurbain n'a jamais réellement été identifié puis intégré dans l'écosystème du transport au Québec, du transport public. Parce que dans le fond, ce qu'on offre, c'est un service public, mais il n'a jamais été vraiment positionné dans l'écosystème. Donc, quand on parle d'amélioration, on parle d'investissement, on parle d'interconnectivité, on semble jamais le voir. On ne fait jamais réellement partie de la discussion. Ça existait avant la COVID. Là, on se dit, écoutez, la COVID vient d'empirer notre situation financière. Il faut vraiment, là, non seulement régler le problème à court terme, mais vraiment identifier la position de l'interurbain dans l'écosystème du transport. Puis je pense que à partir de là, on va regarder les choses différemment. Puis quand je dis, nous allons regarder les choses différemment, c'est autant le gouvernement que les transporteurs que le public voyageur.
Bon, on va suivre le dossier de près. Pierre-Paul Farah, merci d'avoir été avec nous.